La parole ne pourrait jamais, Florence Achressou. Suivez l'émission La Vigue littéraire de Enoch Guidjimé sur Éducation tous les jeudis à partir de 15h.
La Vigue littéraire.
La Vigue littéraire. La Vigue littéraire, c'est un espace d'échange et de partage d'expériences
avec un acteur du monde de la littérature.
La Vigue littéraire,
c'est sur la web radio
Éducation.
Mesdames et messieurs, amis et fidèles internautes de la web radio Éducation, dans la pluralité de vos profils et dans la diversité de vos convictions littéraires, bonjour et bienvenue dans votre émission La Vigue littéraire de ce jeudi 7 mai 2026. Votre émission met un point d'honneur à explorer les phrases qui changent nos vies. Ce jour, nous poussons la porte d'un lieu comme pas les autres, un lieu où on ne délivre pas des gélules, mais des chapitres, où l'ordonnance tient en une dédicace. Ce jour, nous entrons dans une pharmacie des émotions. Elle s'appelle Terra Plume. Terra comme thérapie, plume comme celle qui écrit, qui caresse, qui soigne. Installée au cœur de l'arrondissement de Godomé, cette librairie fait un pari fou, celui de croire que les livres guérissent. Le chagrin d'amour, rayon poésie. Le manque de confiance, essai de développement personnel. L'ennui existentiel, un bon roman de 500 pages à prendre et c'est fini. Pour comprendre comment on prescrit du Florent Kouaouzoti contre la solitude ou du Habib Darpogan contre le stress, j'ai le plaisir de recevoir Christe Jouron-Prévy, fondateur de la librairie Terra Plume. Avec lui, nous allons parler du métier de libraire, des filles du livre au Bénin, la manière dont on tient une librairie quand on veut soigner les âmes dans un monde qui scrolle plus qu'il ne tourne les pages. Alors installez-vous, que vous soyez lecteur du dimanche ou dévoreur de bibliothèque, cette émission est votre ordonnance. La Vigue littéraire démarre maintenant et la postologie est signée Terra Plume, la pharmacie des émotions. Mais avant, nous allons suivre le cachet littéraire, c'est avec Estelle Digri.
Chers férus des mots, de la parole, lecteurs inconditionnels, bonjour. Trois rendez-vous pour garder le feu des mots allumés dans votre cachet littéraire. Deux voix, deux urgences, une même flamme. Lumen Édition ouvre la marche avec le professeur Julien Kofi Gbagidi, le doyen de la FLAC à l'université d'Abomey-Calavi. Dans Coaching africain, par la communication motivationnelle et la sémiotique alagmatique, de la déprogrammation neurolinguistique à la reprogrammation neurolinguistique, il forge un concept tranchant, le coaching alagmatique. Là où la programmation neurolinguistique importée promettait de reprogrammer, Gbagidi ose d'abord déprogrammer. Sa déprogrammation neurolinguistique désosse les schémas hérités. Sa reprogrammation neurolinguistique reconstruit sur des fondations endogènes. L'enjeu est clair, donner aux dirigeants et aux coachs des clés forgées en Afrique pour l'Afrique. Préfacé par le docteur Idrissou Zimé Yerima, l'ouvrage se veut manifeste panafricain. Le livre paraît ce mois. Et de la parole qui reprogramme, on glisse vers la parole qui raconte. Car samedi 9 mai 2026, les murs du CAEB deviendront caisses de résonance. Les livres s'ouvriront comme des fenêtres. On viendra chercher l'histoire d'Ayélé, on repartira avec sa braise sous la peau. Certains rendez-vous ne commentent pas la littérature. Ils rappellent pourquoi on se bat encore. Or, se battre, c'est aussi tenir l'école debout quand tout vacille. La transition est brutale, nécessaire. C'est là que surgit le second coup de poing signé Yelindo Patrick Rouessou aux éditions Mérite Path, Passachatou. Gestion de l'éducation en contexte de crise en Afrique est le titre du livre. Il refuse le pansement importé. Professeur titulaire des universités CAMES, spécialiste de l'échec scolaire et de la gouvernance éducative, Rouessou pose la question qui gratte. Comment sauver l'école quand l'État s'effondre? Sa réponse claque. Arrêtez de copier des modèles qui ont déjà failli ailleurs. Pour étayer, il convoque l'intime. L'histoire de son père, acteur de l'éducation à Mans, Côte d'Ivoire, entre 2002 et 2004. Un héros ordinaire au leadership de proximité, tissé d'éthique, de résilience, de solidarité communautaire. Ce n'est pas un récit mémoriel, c'est un plaidoyer. Un acte de souveraineté épistémologique, reconnaître la légitimité des savoirs africains pour penser nos crises avec nos propres outils. Ce livre est préfacé par le professeur Gabriel Boko. De la DNL à la RNL, de la classe de classe à assiégée au livre qui résiste, deux ouvrages, deux terrains, une même conviction. Déprogrammer les réflexes de dépendance, reprogrammer la pensée depuis le continent. Garder le feu des mots allumés, parce que c'est lui qui éclaire le chemin quand les modèles s'éteignent. C'était votre cachet littéraire. Merci de votre fidélité et surtout, demeurez passionnément littéraire.
Merci Esther pour ce travail. Je l'avais annoncé, Terre à Plume, la pharmacie des mots est le fil rouge de votre émission de ce jour. Ce sera un débat passionnant avec Christeux, Jérôme Pévy. Mais avant de mettre le pied à l'étrier, écoutons ceci.
Voulez-vous offrir une plateforme de visibilité nationale et internationale à toutes les initiatives du secteur de l'éducation? Optez pour le multimédia Éducaction.
Éducaction, votre partenaire privilégié pour toutes vos activités communicationnelles et couverture médiatique.
Retour en studio pour échanger avec Christeux Jérôme Pévy, fondateur de la librairie Terre à Plume. Le thème de ce numéro est « Terre à Plume, la pharmacie des émotions ». Christeux, bonjour.
Bonjour Monsieur Nagidjime.
Comment vous allez?
Je vais très bien, vous?
Ça va, merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est moi.
Alors vous êtes libraire, devant Dieu, devant les hommes. Votre installation ne date pas d'aussi longtemps. Comment êtes-vous, comment vous voyez le milieu de libraire aujourd'hui?
Il faut dire tout de suite que c'est un milieu assez challengeant parce que les défis du monde de la librairie ils sont assez flagrants, surtout chez nous ici. En disant cela, je fais un retour ou un clin d'œil rapide sur le thème de libraire et de vendeur de livres. Parce qu'un vendeur de livres n'est pas forcément un libraire. Mais un libraire, oui, il est vendeur de livres à la base. Parce que le libraire, le travail du libraire, ça ne s'arrête pas au fait de vendre un livre. Donc, c'est ce que je peux dire tout de suite par rapport à cette question.
Alors, quels sont les défis aujourd'hui, les défis du milieu de libraire?
D'abord, nous sommes dans un milieu où il est dit, ce qui n'est pas totalement faux, que les gens ne lisent pas. Et donc, pour amener les gens à la lecture, c'est déjà un challenge, c'est déjà un défi. À réussir à attirer plus de monde vers la lecture, c'est déjà là le plus grand défi. Parce qu'effectivement, les gens, comme vous l'avez dit déjà dans votre intro, ils trouvent plus de temps à scroller qu'à ouvrir les pages des livres. Et donc, le fait d'attirer plus de monde vers la lecture, ça constitue déjà le premier défi.
Et donc, vous confirmez le fait qu'on dise que les gens ne lisent pas?
Ce n'est pas totalement faux.
Ah bon?
Ah oui.
Quelle étude a été faite pour vous amener à confirmer cela?
Non, quand on voit...
Vous tenez compte de la vente des livres aujourd'hui pour vous tirer votre conclusion, c'est ça?
Oui, c'est vrai que les gens ne lisent pas, mais ce n'est pas de leur faute. Et d'ailleurs, tout le défi de la librairie Terre à Plume est là. Nous comprenons parce que nous disons souvent à la librairie Terre à Plume, le fait que nous ne lisons pas, d'abord, on n'a pas eu cette culture en termes de formation professionnelle, on n'a pas été... sur cette culture de la lecture. Et le plus souvent, au cours de notre cursus, si nous devons lire, c'est sûr que le professeur doit nous interroger par rapport à une partie. Nous courons pour chercher la partie sur laquelle on sera interrogé. Et donc, vu cela, nous n'avons pas vraiment la culture d'aller nous-mêmes vers la lecture. Et le défi part déjà de là. Le problème part déjà de là. Et plus loin, les gens croient que la lecture, c'est un passe-temps où c'est quand on a fini de tout régler, quand on a un peu de temps à côté qu'il faut se mettre à la lecture. Mais c'est quand même tout le contraire, parce que la lecture peut bâtir une vie. La lecture, pas peu. La lecture bâtit une vie. La lecture reconstruit. La lecture redresse une vie. Donc, c'est en fait ça.
Voilà, vous plantez déjà le décor. Terre à Plume est née. D'où est venu ce nom?
Terre à Plume, le nom déjà est évocateur. Pour celui qui sait voir à travers les mots, tout de suite, il y voit deux mots, la thérapie et la plume.
Donc, il y a un lien.
Simplement, exactement, la thérapie à travers la plume. Et pour dire que nous accompagnons chaque âme, chaque être à travers la plume qui pourrait lui correspondre.
Mais quel type d'ouvrage vous défendez en priorité?
Justement, il faut rappeler d'abord, pour répondre à cette question, que la librairie Terre à Plume, la toute première librairie d'Afrique de l'Ouest spécialisée en bibliothérapie. Et pour faire un crochet rapide sur la bibliothérapie, c'est le fait de prendre soin de soi à travers les livres. le fait de prendre soin de soi. Et chez nous, nous parlons de développement non personnel, mais intégral de l'homme à travers la lecture. Et donc, quel que soit le pan que la personne a envie de toucher du doigt par rapport à sa vie, il y a forcément un livre pour l'accompagner. Et donc, voilà un peu par rapport à la...
Et quels sont les ouvrages que vous défendez chez vous là?
Oui, comme je l'ai dit, il y a d'abord les ouvrages spécifiques de la bibliothérapie, les ouvrages qui accompagnent véritablement pour les problèmes existentiels. Il y a ces ouvrages, mais il n'y a pas que ça.
Et le développement personnel, il y en a?
Bien sûr.
La littérature, la spiritualité.
Bien sûr, mais ce n'est pas les livres de développement personnel ne sont pas vraiment mis en avant chez nous.
Pourquoi?
Parce que oui.
Alors que ça doit être le cas.
Non. Et justement, les gens croient souvent que ce sont les livres de développement personnel qui sont utilisés en bibliothérapie. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que la bibliothérapie se sert de tous les gens. Tous les gens. Romans, essais, nouvelles, poèmes, et tous les gens sont utilisables dans la bibliothérapie. Et donc, les livres de développement personnel, d'ailleurs, ne sont pas des livres spécifiques de la bibliothérapie. C'est vrai. Les livres de développement personnel font leur travail, ont le côté qu'ils règlent, mais ce ne sont pas des ouvrages spécifiques de la bibliothérapie. Et donc, pour les ouvrages que nous défendons, il y a d'abord ces ouvrages spécifiques de la bibliothérapie. Pour prendre des exemples concrets, quelqu'un qui vit, par exemple, le deuil, qui est en train de passer à côté de sa vie, il y a forcément des livres spécifiques pour l'accompagner. Quelqu'un qui vit un événement assez douloureux de sa vie et qui, à cause de cet événement, est carrément en train de s'oublier ou de croire que...
On perd le nord.
Voilà, de croire que tout est fini. Il faut peut-être un livre pour lui faire comprendre que ce qu'il est en train de traverser, il n'est pas le seul dans le cas. Et nous avons accompagné tellement de personnes où, avec un seul livre, un autre après, la personne redécouvre tout le sens de la vie.
Alors, au-delà de vendre des livres, quelle est la mission réelle de Théraplume dans le milieu littéraire?
Exactement. Et la question est la bienvenue parce que nous, ce n'est pas le fait d'avoir un client de vendre un livre qui est nous notre défi. Et d'ailleurs, le fait de s'arrêter à la vente du livre, ce n'est pas ce qui nous fait notre enthousiasme dans le milieu. Mais il faut que le client qui entre et qui choisit un livre puisse revenir après nécessairement et dit oui, vous m'avez recommandé ce bouquin, vous m'avez orienté vers ce bouquin et effectivement, aujourd'hui, j'en ai les fruits. Je vois les fruits de cela dans ma vie et c'est ce que nous faisons.
Alors, comment choisissez-vous les livres que vous mettez en rayon?
Voilà. Je parlais déjà de la des livres spécifiques de la bibliothérapie. Je veux faire un crochet vite fait pour dire que le Théraplume s'est défini aujourd'hui aussi comme la maison de la littérature béninoise. Parce que cela va peut-être vous surprendre, on est au Bénin, mais quand nous allons dans les librairies, c'est difficile de trouver des rayons dédiés rien qu'à la littérature béninoise. Je ne dis pas qu'on ne trouve pas les livres de la littérature béninoise, mais ils sont souvent pêle-mêle. Donc, nous revendiquons cela. Ça nous permet...
Non, mais j'ai vu des livres qui sont cloisonnés, typiquement béninois. Mardi passé, j'ai fait le constat.
Typiquement béninois.
Oui, classé quelque part, où on parle rien, on met rien qu'en avant les livres des auteurs béninois.
Je fréquente beaucoup toutes les librairies. Avant d'ouvrir la librairie Théraplume, j'étais un fin fan de toutes les librairies. Et il n'y a pas cette librairie où je n'ai pas mis pied, où je n'ai pas acheté plusieurs fois. Et donc, c'est un constat flagrant. Comme je le soulignais, ce n'est pas que les livres de la littérature béninoise ne sont pas présents. Il y a encore d'autres librairies sur le territoire qui mettent même plus en avant les auteurs béninois à travers leur rayonnage. Je ne dis rien de nouveau, mais que je n'ai pas envie forcément de citer. Mais venir et trouver un rayonnage dédié où vous ne trouvez que des livres de la littérature béninoise dans ces rayons-là. On en voit vraiment très, très, très peu sur le territoire. Mais donc, chez nous, on ne se perd pas pour trouver les livres de la littérature béninoise. Il y en a beaucoup, parce qu'on travaille beaucoup avec les écrivains locaux, avec les maisons d'édition béninoises. Et aussi, maintenant, pour revenir à notre particularité, il y a les titres spécifiques que nous choisissons et que nous mettons dans nos rayons. Il y a aussi le développement personnel qui est présent. Et nous, vu que le combat pour la lecture il est plus difficile avec les adultes parce que celui qui a déjà fait tout son parcours et c'est maintenant que vous allez l'intéresser, on réussit à le faire, mais il faut avouer que c'est plus difficile. On s'est rendu compte que pour que le combat soit gagné, il faut que nous puissions attaquer aussi la plus basse couche, qui est donc les enfants. Et donc, nous avons aussi de l'âge rayon dédié aux enfants pour accompagner les enfants.
Alors, Christophe, quels sont les plus gros défis pour une librairie indépendante au Bénin aujourd'hui? Est-ce que c'est le prix du livre, la concurrence numérique ou les habitudes de lecture?
Le plus gros défi, c'est que les gens n'achètent pas. Et comme le dit quelqu'un du milieu littéraire béninois, très très connu, mais dont je n'ai pas envie de citer le nom, il dit souvent « Ceux qui ont l'argent pour acheter les livres ne les achètent pas, mais ceux qui ont le temps ou l'envie de les lire n'ont pas l'argent pour les acheter. »
Je connais l'auteur de cette citation-là. Je ne vais pas vous rejoindre. Voilà. Auditeurs et auditrices de la web radio, Éducation, amoureux des belles-lettres, une pause s'impose. Écoutez.
Yeah, la vie est beau. Yeah, tu t'aimes beau. Tu aimes beau. Et l'eau le aime beau. Yeah, la vie est beau. Baby, la langue est beau. And feeling more than that dread. I could have won the bad dread. And then we're going to give you the bad dread. Is that my biz? 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 Is that my biz?
Retour en studio pour amorcer le dernier virage de notre échange avec Christe Jouron-Pévy. Je rappelle qu'il est le fondateur de la librairie Terrain Plume. Le thème de ce numéro est Terrain Plume, la pharmacie des mots, des émotions. Alors Christe, qui sont vos principaux clients?
Nos clients sont beaucoup plus ceux qui, évidemment, ceux qui lisent déjà, qui remarquent une librairie spécialisée et qui se rapprochent de nous. Et beaucoup plus, notre communication le dit si bien, ceux qui ont envie de se mettre à la lecture, il y en a beaucoup, hein. Et c'est surprenant. Il y a beaucoup qui ont envie de se mettre à la lecture, mais qui ne savent pas par où commencer ou qui ne savent pas comment s'y mettre. Parce que nous, notre travail, c'est beaucoup plus de l'accompagnement. Il y a beaucoup ceux-là que nous recevons. Et il faut dire aussi que nous recevons beaucoup de parents, mais qui ont souci de leurs enfants. Parce qu'ils se rendent compte qu'effectivement, la lecture, elle est très importante. Et ils ne le font pas, ils ne viennent pas vers nous pour eux-mêmes, mais pour que nous puissions aider leurs enfants à être de véritables lecteurs, parce qu'ils savent que la lecture peut corriger forcément quelque chose dans leur vie.
Comment vous arrivez à aider les enfants à être de véritables lecteurs?
Oui, vous savez...
Allez un peu dans les détails, s'il vous plaît.
Dans les détails, les enfants, en fait, déjà, l'enfant qui ne voit pas... L'enfant a tendance à faire ce que les parents font. Et de façon générale, on sait que nous ne lisons pas, et donc très peu de parents lisent. Et donc, si nous avons ces parents-là, ces parents qui n'ont pas l'habitude de voir les parents lire, et ces enfants qui n'ont pas l'habitude de voir les parents lire, si ces enfants viennent vers nous, il y a de ces ouvrages-là, parce que les enfants, vous savez, ils aiment les images. Les images, donc il y a ces livres imagés, des BD, en l'occurrence, pour intéresser les enfants. Si l'enfant trouve des images dans un livre et il entre dans l'histoire que le livre lui raconte. Dans les personnages imagés, c'est plus facile pour lui de côtoyer les livres. Et donc, nous avons de simples astuces, les coloriages par exemple. Le coloriage, c'est l'enfant commence par côtoyer les livres avec le coloriage. Et peu à peu, lui-même, il commence par prendre goût. Et lui, de lui-même, il peut maintenant désormais réclamer des livres.
Organisez-vous des dédicaces, club de lecture, atelier d'écriture ou conférences?
Nous avons une activité phare, je dirais, que nous dénommons les rencontres Terra Plume, qui se fait tous les derniers samedis du mois à la librairie, bien entendu, où nous invitons un écrivain et que notre audience vient rencontrer. Et la particularité d'ailleurs des rencontres Terra Plume, c'est une fois que nous avons retenu l'écrivain, nous lançons déjà la précommande de l'ouvrage pour soutenir les écrivains locaux. Et toujours dans cette précommande là, une fois cette précommande lancée, le jour de l'événement même, nous faisons la dédicace de tous les ouvrages qui ont été précommander et acheter le jour même. Donc voilà une des activités.
Alors si je devais vous dire de me donner un seul livre de votre rayon, coup de cœur, ce mois-ci, lequel me recommanderez-vous?
Éducation, c'est vraiment une grande question, une très grande.
Non mais ça ne fera pas de jaloux. Hein.
Non, ça c'est sûr.
Ayez le courage de le dire.
Ah oui, oui, je le dirai et je suis sûr que je ne vais pas créer de jaloux. Et actuellement, si je dois parler d'un coup de cœur dans nos rayons, ce serait Paria.
Paria de Carmen Tudorum, exactement. Parce qu'il est passé là, n'est-ce pas?
Non, pas qu'elle est passée là, parce qu'il faut quand même oser le dire. Paria a, d'une façon ou d'une autre, révélé, c'est vrai, la littérature béninoise, il y a beaucoup qui révélaient la littérature béninoise. Mmh. N'oublions pas que Paria a remporté le Grand Prix Afrique 2025 avec la mention Sherazade. Mmh. Donc Paria a quand même permis de faire la lumière d'une certaine façon, même si ça se faisait déjà avec d'autres, sur la littérature contemporaine béninoise. Et ce n'est pas que ça, c'est la thématique qu'on y aborde, c'est beaucoup de choses et qui pourraient vraiment réveiller une certaine sensibilité à travers le lecteur. C'est un ouvrage qui fait voyager le lecteur carrément et qui révèle la littérature béninoise d'une façon ou d'une autre.
Et donc les autres ne révèlent pas la littérature béninoise?
Bien sûr, non, mais actuellement en termes de prix, sur le continent, en parlant de la littérature béninoise aujourd'hui, c'est Paria de Carmen Tudorum.
Donc, je comprends mieux. Alors, comment Théraplume s'adapte à la montée des liseuses et des livres audio? Est-ce une menace ou une opportunité?
C'est une très bonne opportunité parce que le combat d'abord, comme je l'ai dit, il y a d'autres. On n'a pas d'excuse à dire qu'on ne lit pas. Parce que la lecture, ce n'est pas seulement le fait de garder dans sa main un livre. Mmh. À travers la montée des liseuses et des livres audio, quel que soit là où vous êtes, vous n'avez normalement pas d'excuses. Ce n'est pas que vous n'avez pas le temps. Vous êtes en pleine circulation, vous pourrez être en train d'écouter un livre. Vous êtes quelque part, vous avez le téléphone en main, vous pourrez être en train de lire un livre. C'est un moyen, moi je trouve, nous trouvons à la librairie Théraplume, que c'est un moyen de poursuivre le lecteur partout où il est.
Donc ce n'est pas une menace pour vous?
Pas du tout. Bien au contraire, c'est une opportunité. Parce que celui qui a commencé par côtoyer les livres, il y en a, hein, nous en recevons, qui ont commencé par côtoyer les livres à travers les livres audio et les liseuses. Et celui-là finira toujours par revenir au livre même, forcément. Et il est déjà un lecteur gagné.
Alors, une journée à Théraplume ressemble à quoi?
Ah, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de c'est plonger dans l'univers des livres, évidemment, et dans de l'écoute. L'écoute de ceux-là qui viennent, qui ont envie, comme je l'ai dit dans mon développement, eux-mêmes, parfois, ils vous posent des problèmes et vous les aidez à trouver les livres qui pourraient leur correspondre. Il y en a qui viennent, qui posent des problèmes spécifiques pour les enfants. On a envie que l'enfant développe tel caractère, mais nous, on a envie qu'il fasse ci, qu'il fasse ça. Et il y a des livres spécifiques, peut-être, pas forcément des livres spécifiques, mais il y a des livres qui pourraient aider l'enfant en fonction de ce que le parent voudrait. Donc voilà, et il y a ceux-là qui viennent, comme je l'ai dit de façon vraiment côté bibliothérapie, qui vivent peut-être une crise existentielle ou des situations où pour eux la vie s'est arrêtée. Ils continuent de vivre, mais pour eux la vie s'est littéralement arrêtée. Ou non, nous essayons de les accompagner toujours avec les livres. Et il y a beaucoup qui reviennent avec beaucoup de témoignages. Et c'est toute la satisfaction de la librairie Théraplume.
Alors je reviens encore avec une question très sensible. Allez-y. Vous allez répondre.
Allez-y.
Alors on ne le souhaite pas si éventuellement il y a un incendie et que vous devez sauver trois livres. Quels sont les titres que vous allez prendre?
J'avoue que j'ai vraiment des questions assez, de grosses questions sur votre émission. Je le dis une fois. Encore. Sauver trois livres, ce serait une question très très difficile à répondre.
Mais vous avez pu répondre, vous avez pu faire le choix d'un livre parmi tant d'autres dans votre rayon.
Non, je préfère parler de gens, et ça va vous surprendre. Moi, je vais garder la littérature africaine dans sa globalité. Contrairement à tout
la littérature africaine dans sa globalité, choisissez-moi trois titres dedans, s'il vous plaît.
Wow, trois titres, c'est un travail. C'est vraiment un lourd travail. J'ai pas envie de répondre pour ne pas forcément...
Non, mais il faut répondre parce que quand on vient ici, on répond. Le public vous suit.
Je suis conscient.
Ce n'est pas que
là.
Si vous répondez à la question, vous allez jeter une pomme de discorde dans le rang de vos auteurs ou de vos clients. Pas du tout.
Si je dois sauver 3 livres, je partirai par, comme je l'ai dit, la littérature africaine. Je prendrai d'abord dans mes rayons la plus secrète mémoire des hommes.
Mohamed
Bougassa, le prix Goncourt. Mm-hmm. Le seul Africain subsaharien à avoir remporté le prix Goncourt. Mm-hmm. Voilà. Après, je prendrai aussi à Paria, comme je l'ai dit dans mon développement. Mm-hmm. Et après, c'est une grosse question, vraiment. Il y a tellement de titres.
Le temps passe, s'il vous plaît.
Oh là là.
Il reste un seul livre que vous allez donner.
Les Impatientes de Djaïli Amadou Amal. Les Impatientes, qui a remporté le Goncourt des lycéens.
Alors, je fais un constat rapide, c'est que les livres qui n'ont pas reçu de prix n'ont pas de chance, c'est vous, n'est-ce pas?
Nous mettons beaucoup en avant les livres qui n'ont pas reçu de prix.
Alors, pourquoi dans votre réponse, on sent que vous revenez de façon incessante sur des livres qui ont exclusivement reçu des prix?
Vous m'avez posé, je l'ai dit en amont, une grande question. Et c'est difficile de répondre. Donc, comme je l'ai dit, j'ai beaucoup de livres que je dois sauver, mais les 3, et en fonction de l'impact...
Surtout les livres qui ont gagné des prix.
Non, pas ça. Justement, je reviens sur la question.
Non, ne revenez plus.
Non, les livres, l'impact que ces livres ont eu sur les lecteurs qui ont vu, à qui nous avons recommandé ces bouquins, le retour qu'on a eu, le retour de lecture.
Vous avez guéri des âmes.
Bien sûr, à coup sûr, avec ces livres. Essentiellement, dans ce registre, les lames de la patience de Djaïli Amadou Amal. Il y a beaucoup qui l'ont lu à travers tes.
Quelle est votre plus grande fierté de librairie? Est-ce qu'une rencontre, une vente, un lecteur transformé par un livre?
Évidemment, c'est un lecteur transformé et gagné qui vient à la lecture et donc qui embrasse le dense univers de la littérature.
Alors, on est en train de chuter rapidement. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut prendre l'habitude de lire mais ne sait pas où commencer? Voilà. C'est vrai, vous l'avez dit concernant les enfants. Alors, un adulte qui veut s'y prêter, quel conseil vous avez à lui donner?
Même un grand lecteur, parfois, il prend un livre qu'il peut lire en 48 heures, mais il finit 3 semaines, il se rend compte qu'il n'a pas encore fini de lire le livre.
Ça. Et vous avez le secret?
C'est pas un secret, mais c'est pour dire que parfois, nous choisissons un livre, mais le livre ne correspond pas à ce que nous avons envie de lire sur le coup. Et donc, nous traînons avec le livre, comme je l'ai dit, un livre qu'on a la possibilité, connaissant la façon dont nous lisons de lire en 48 heures, on se découvre à faire 3 semaines sans le finir. Ça veut dire que le livre ne correspond pas. Vous choisissez vraiment le livre, mais ça ne correspond pas à ce que vous voulez.
À l'instant, exactement.
Et donc, le conseil que nous donnons, c'est de savoir véritablement ce dont la personne a besoin. Parce que c'est en fonction de ça qu'on pourra lui choisir.
Donc,
un
ce qui voudra dire qu'il y a une consultation en amont.
Évidemment, un accompagnement.
Peut-être
une
psychologique
écoute.
Aussi.
Ça pourrait venir, et d'ailleurs, ça va vous surprendre. Bien sûr. Ça pourrait venir. Et là, si nous nous rendons compte que nous sommes face à un cas où l'accompagnement avec les livres, ou un cas qui a fait appel à un psychologue, nous travaillons aussi avec des psychologues.
Un mot pour conclure,
lisez. Lisez et faites lire à vos enfants, autour de vous. Parce que lisez, je dirais, tout ce qui vous passe par la main et écrivez tout ce qui vous passe par la tête.
Merci beaucoup, merci à vous. Mesdames et messieurs, chefs férus des mots et de la littérature, nous fermons doucement les portes de Terre à Plumes, mais pas celles de nos esprits. Avec notre invité, nous avons compris une chose. Ici, on ne vend pas juste du papier relié. On délivre des permissions de pleurer, de rêver, de se reconstruire. La preuve qu'une librairie peut être plus bien qu'un commerce. Un cabinet de consultation pour l'âme. Ce qu'on garde de Terre à Plumes ce jour, c'est ce pari. Que chaque livre est une molécule active contre l'indifférence. Que dans un Bénin qui court, qui clique, qui scrolle, il existe encore des lieux où on peut prendre le temps de tourner les pages. Et que lire, finalement, c'est peut-être la thérapie la moins remboursée pour la sécu, mais plus efficace. Avant de mettre un thème à l'émission, il me plaît de partager cette citation de l'écrivain français Massim Chatham, je cite, « Se promener dans une librairie, c'est un peu comme contempler un gros paquet d'émotions et choisir celle qu'on désire ressentir. » Fin de citation. Quant à moi, je dirais à mon tour, le livre « Un débat avec Eba » entre lecteur et l'auteur. Ferdinand Zamba, Jidas Benazamagbe, Jean-Marie Arotondi, Franklin Gbeyon, Christelle Abaye et moi-même vous remercions de votre écoute. Restez connectés sur nos différents canaux pour suivre l'actualité éducative en continu. Ferdinand Zamba a assuré la manipulation technique, réalisation Jidas Benazamagbe. La coordination éditoriale a reçu le cachet de Ulrich Vital Arotondi. Au micro, je suis Enoch Guidibé. À la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission La Vigue littéraire. Comme on le dit en fond et d'abord.
La Vigue littéraire.
La Vigue littéraire. La Vigue littéraire, c'est un espace d'échange et de partage d'expériences
avec un acteur du monde de la littérature.
La Vigue littéraire,
c'est sur la web radio
Éduc Action.